Donc là, dans un premier temps, on va avoir deux interventions, puis après, on vous laissera poser des questions. Dans la salle, on va faire circuler un micro ou par écrit, et on retransmettra les questions dans la salle. Donc merci à toutes et à tous d'être là, et pour donner un élément de contexte supplémentaire, même si ça ne va pas être le cœur de la conférence d'aujourd'hui, un projet de fusion en cache toujours un autre, et récemment, le gouvernement, au travers de Emmanuel Macron, pour ne pas le citer, on a annoncé encore un nouveau train de mesures sur le monde universitaire et le monde de la recherche. On pense notamment à ces universités chefs de file, donc on ne comprend pas très bien encore quelles vont être les conséquences exactes pour les sites universitaires. Mais en tout cas, côté Lyon 1, la nouvelle a déjà bien été transmise à la présidence, qui s'est empressée de dire que le chef de file, ce serait Lyon 1. À interpréter, évidemment, mais tout ça pour l'instant c'est que des choses très hypothétiques, mais tout ça pour dire que on peut penser que les choses semblent être au point mort, mais derrière une fusion il y a toujours une autre fusion, derrière un projet de transformation il y a toujours un autre projet de transformation. On l'a vu entre l'IDEX et ce qui se passe aujourd'hui avec le PE. Je vais passer la parole à nos deux intervenants.
Super. Merci, bonjour. Je pense que je peux me passer de micro. En général, si vous trouvez que non, vous me dites. Mais nous sommes désolés du report. Enfin, vous avez dû être au courant du report. La conférence devait avoir lieu en novembre. Mais moi, j'y ai attrapé le Covid cette semaine-là et Maréla a eu un accident de voiture. Donc voilà. Nous venons vers vous, enfin nous venons à vous en étant très fatigués, nous espérons être le plus clair possible, nous demandons votre indulgence. C'est la fin du semestre, à Aix-Marseille Université nous sommes dans une période d'accréditation de nos diplômes en plus, et puis notre fatigue on va dire est symptomatique la charge de travail qui pèse sur tous les personnels de l'enseignement supérieur et la recherche. Qu'il y ait fusion ou pas, qu'il y ait EPE ou pas. Voilà, donc moi je me présenterai rapidement, Julien l'a fait, je suis sociologue qui travaille en tant que chercheuse sur les transformations de l'enseignement supérieur et la recherche, et en particulier des universités en France, mais aussi en Angleterre par exemple. J'ai également été élue dans à peu près toutes les instances depuis 25 ans que j'ai été maître de conférence ou maîtresse de conférence, dans à peu près toutes les instances possibles et inimaginables du département au Conseil Centraux. Et ça a évidemment nourri ma réflexion. J'y ai fait, comme diraient certains sociologues, de la participation observante. Et puis, je suis syndiquée à la CGT, en sachant que ce que je vais faire maintenant, c'est une conférence de sociologie, tentant de retracer avec rigueur les transformations des universités françaises jusqu'aux fusions et aux EPE. En montrant les enjeux et en prenant en considération votre problématique ou vos problématiques et vos questions telles qu'elles nous avaient effectivement été proposées et qui figurent dans le tract, la communication sur la conférence d'aujourd'hui. Je vais repartir en fait des grandes caractéristiques de l'université française telle qu'elle a été construite après 68 par la loi Faure et puis la loi Savary de 1984, en montrant ce que les différentes réformes depuis 15 ans, et en particulier depuis la LRU, loi d'autonomie des universités de 2007, qui constitue un premier point de rupture important, en passant par les fusions, le développement du financement à la performance et à l'excellence, par appel à projets, en particulier les PIA, programme d'investissement à venir. En passant rapidement par Parcoursup et les EPE, tous les deux, c'était 2018, début ou fin 2018, et la LPR, fin 2020, et les EPE, les établissements publics expérimentaux, constituant, d'après moi, mais je ne suis pas la seule, le deuxième point de rupture ou le point de bascule potentiel par rapport aux grandes caractéristiques, je disais, de l'université française. Donc, en fait, ces grandes caractéristiques, j'en retiens cinq. Je ne vais pas les développer toutes, vous allez le voir. La première, c'est l'université comme entité publique avec un mode d'organisation uniforme et démocratique. C'est en particulier, comme on va le voir, cet élément que les établissements publics expérimentaux bouleversent. Le deuxième, c'est le statut de fonctionnaire d'une grande partie, quand je dis grande caractéristique, c'est aussi par rapport aux pays étrangers, quoi, hein, on va dire, une grande partie de le statut de fonctionnaire d'une grande partie de ses personnels. Pour les enseignants, enseignantes, chercheurs, c'était ou c'est le garant minimal de la liberté académique, hein, en sachant que ces dernières années ont été celles du développement de la contractualisation et de la précarisation des emplois, renforcées par le financement à appel à projet et la LPR. On y reviendra au fur et à mesure. Troisième grande caractéristique, c'est un mode de financement par le versement de subventions par l'État central. Subventions certes insuffisantes, mais déterminées en fonction des besoins, par exemple, hein, le nombre d'étudiants, et un certain nombre, donc, fondées sur un certain nombre de critères identiques pour tous, pour toutes les universités françaises. Le quatrième, je dirais, c'est l'accès de droit pour tout bachelier, qui a été largement remis en cause par l'instauration progressive des capacités d'accueil, puis de Parcoursup. Ça, je n'y reviendrai que très peu, hein, puisque c'est en place. Et la cinquième caractéristique, c'était des droits d'inscription à la fois faibles et uniformes, fixés par arrêté ministériel, un principe qui est également remis en question par le contexte, dirons-nous, pour l'instant, et par la mise en place des établissements expérimentaux. Voilà. Alors j'en viens, je vais surtout développer en fait certaines d'entre elles, leur évolution. Hein, donc la première en particulier, hein, je vous disais, un mode d'organisation uniforme et démocratique. C'est-à-dire que, alors j'ai essayé hein, de parler à des gens qui connaissent bien, mais à des gens qui connaissent pas spécialement bien non plus. Hein, donc peut-être que pour certains, je rabâche, enfin je donne des choses de basiques, mais à chaque niveau organisationnel de l'université, on va dire du département aux UFR, aux composantes et au niveau centraux, eh bien, on trouve un ou des conseils constitués d'élus, des étudiantes, des personnels administratifs et d'enseignantes et enseignants-chercheurs et des personnalités extérieures, hein, des conseils qui sont dirigés par un ou une enseignante-chercheur élue parmi ses membres, suivant un cadrage légal inscrit dans le Code de l'éducation. L'ordonnance, pour aller vite, et puis j'y reviens, l'ordonnance du 12 décembre 2018 a permis la transformation d'universités ou de communes en établissements publics expérimentaux, ces fameux EPE. Leur cadre légal est, lui, très minimaliste. Ils sont créés un par un par décret. Leur organisation interne est fixée dans leur statut et un grand nombre d'éléments ne relèvent que de leur règlement intérieur. Il y a donc une dérégulation et une complexification très forte et l'on s'achemine vers un système universitaire où chaque établissement fonctionne largement avec ses propres règles. Dans la transformation en termes d'EPE sur cette dimension d'organisation uniforme et démocratique, je retiendrai en particulier trois points. Mais ça, c'était pour plus tard. Donc, si je me focalise, si je veux regarder justement, pour commencer, cette transformation de Savary aux EPE, hein, si je me focalise sur le CA, hein, parce qu'on ne peut pas regarder toutes les instances, si je me focalise sur le conseil d'administration, on va dire que... Avec, pour vous donner quelques idées, alors on n'a pas franchement eu le temps, Maréla et moi, vu les circonstances, de faire un PowerPoint. Au moins sur ce point-là, ça aurait été peut-être plus simple à suivre, mais avec la loi Savary, le CA était composé de 30 à 60 membres. Et en sachant que la plupart des universités avaient opté pour un CA de 60 membres à l'époque, dans lequel on trouvait 40 à 45% de représentants des enseignants-chercheurs, élus donc, hein, 20 à 30% de personnalités extérieures, 20 à 25% de représentants des étudiants, et 10 à 15% de représentants des personnels non enseignants. Donc ça, c'était la loi Savary. La loi LRU, hein, l'argument... que le trop grand nombre de membres crée lenteur et inefficacité, elle a diminué ce nombre et à donner plus de poids aux personnalités extérieures. Diminuer ce nombre, je vous disais 30 à 60 et plutôt 60 comme choix de tous. Après, la LRU, c'était de 20 à 30 membres, d'une part. 40 à 45% d'élus enseignants-chercheurs, représentant les enseignants-chercheurs. 25-35% de personnalités extérieures, hein, dont on a augmenté le nombre, je le disais. 15% à peu près d'étudiants et 10% de personnel administratif, non enseignant. Ouais. Ça, c'était la loi LRU. Si on prend la loi LRU avec les fusions, hein, et nous, donc, nous sommes à Aix-Marseille Université, qui est issue de la fusion de trois universités, Aix-Marseille 1, Aix-Marseille 2, Aix-Marseille 3, et que donc vous aviez 60 membres OCA, hein, à U1, U2, U3, ça fait 180 personnes. Hein, et après la LRU et la fusion, on se retrouve avec donc 36 membres du conseil d'administration, dont 16 enseignants-chercheurs, 8 personnalités extérieures, 6 étudiants et 6 personnels non enseignants. Ça signifie qu'en fait, on se retrouve avec 6 étudiants pour représenter 80 000 étudiants. Et on se retrouve avec 16 enseignants-chercheurs et 6 IATS, ça fait 22 élus du personnel, pour représenter 8000 personnels. Voilà. Donc c'est clair ce que ça signifie en termes de diminution de la représentativité, hein, enfin de la représentation, je dirais plutôt de la diversité des membres de la communauté universitaire. Hein. Et évidemment, on retrouve ce même phénomène, je me suis concentrée sur le CA, hein, mais au niveau de la CFVU, du comité de la recherche, de la commission recherche, des UFR également, puisque les fusions signifient la plupart du temps des fusions d'UFR, hein, et donc un moindre nombre aussi d'unités intermédiaires. Hein, voilà. Ça signifie... j'ai perdu ma feuille numéro 3... ça signifie aussi, je sais pas où elle est passée, une augmentation très forte de la charge de travail des élus. Hein. Ça signifie une méconnaissance des élus de la réalité et des disciplines qu'ils expertisent, hein, puisqu'il y a une grosse partie, en particulier à la CVU et à la commission de la recherche, d'expertise de dossiers, et d'expertise qui, du coup, hein, ne peut plus se faire que sur des critères très généraux, quantitatifs et très formels. On pourra y revenir, hein, sur ces questions-là, mais ça a beaucoup de sens dans la transformation aussi du travail, on va dire. Et donc, je vous disais, les EPE, hein, par rapport à ça, hein, donc ça, c'est, ça, on est là aux universités après LRU, fusionnées ou pas, mais quand ça fusionne, la fusion plus la LRU a déjà l'effet dont je vous parlais en termes de réduction du nombre de représentants. Les EPE, je vous disais trois points, hein, qui méritaient d'être soulevés, c'est que s'agissant de leur organe de direction, puisqu'il ne s'appelle plus forcément un CA, hein, mais bon, et de leur président, eh bien, le nombre de membres du CA n'est plus fixé par l'ordonnance de 2018. Il relève là aussi du décret, hein, individualisé à chaque EPE. Le seul cadrage présent dans l'ordonnance spécifie que l'organe de direction doit contenir au minimum 40% de membres élus, alors que dans le cadre de la LRU, hein, ça revenait à plus de 80% quand même d'élus, même si le nombre avait été réduit, au sein des membres du CA. Donc là, une limite basse de 40%, en sachant que le nombre des membres de cet organe de direction n'est pas fixé, comme je vous le disais. Bon. D'autre part, autre élément très important, c'est que le directeur ou président de l'EPE peut ne pas être élu, peut ne pas être enseignant ou enseignante-chercheur, exercer un nombre illimité de mandats et qu'il n'y a plus de limite d'âge, nous en parlions à midi, enfin, et qu'il n'y a plus de limite d'âge pour l'exercer. Voilà. Le fait qu'il puisse ne pas être enseignante ou enseignant-chercheur pose des problèmes, enfin des questions en termes de collégialité, hein, mais pas seulement, parce que s'il n'est pas fonctionnaire, la question de son salaire aussi se pose, et qu'il n'y a pas de grille salariale prévue. Le deuxième point qui mérite attention, hein, c'est l'organisation interne. Donc là, je vous disais, une université, dans le cadre du statut d'université, département, UFR et conseils centraux. Donc si on descend en dessous des conseils centraux, là, il n'y a plus aucun cadrage en matière d'organisation. Et si on regarde ce qui s'est fait, dans tous les 18 à peu près, si je me souviens bien, j'ai peut-être perdu le compte, mais on est à peu près à ça, EPE créé, la plupart des organisations ne sont plus fondées sur des UFR, mais sont fondées sur une école universitaire de premier cycle, transversale pour tout et valable pour tous les membres regroupant tous les premiers cycles de tout l'EPE. Et puis des structures plus regroupement disciplinaires, on va dire, à partir du master et doctorat, qui s'appellent de différents noms, qui peuvent être écoles universitaires de recherche, instituts ou graduate schools. Leur directeur à ces écoles universitaires de premier cycle ou ces graduate schools sont généralement nommés par le président et non plus élus. Par exemple, à Paris-Saclay, l'un des premiers EPE, l'école universitaire de premier cycle est dotée d'un conseil constitué d'élus, de représentants des différentes structures et de personnalités extérieures. Et le président de ce conseil est élu parmi les personnalités extérieures. Voilà. Ça signifie que le président de l'école universitaire de premier cycle peut être un représentant d'une collectivité locale, d'une chambre de commerce, d'une entreprise, etc., etc., d'une association. Donc ça, c'était le deuxième point important en matière de transformation des EPE. Le troisième, c'est le fait que un EPE peut regrouper, mais ça c'est le cas de potentiel de Lyon 1, de Lyon 1 et Lyon 2, enfin de l'EPE potentiel en devenir, c'est que les EPE peuvent regrouper des établissements publics et privés, alors des établissements non universitaires tels que des écoles publiques, mais aussi des écoles privées. Donc des écoles avec des statuts qui peuvent être très variables, et que l'université ou les universités de départ sont dissoutes dans la nouvelle structure, l'EPE. En revanche, les écoles en elles-mêmes peuvent, elles, garder leur personnalité morale. Et c'est généralement, alors ça donne lieu à des négociations, en TEPE, on va dire, mais très souvent les écoles tiennent à garder leur personnalité morale, parce que ça signifie que à la fois elles sont représentées dans tous les services, dans tous les conseils, à tous les niveaux, y compris en tous les conseils centraux de l'EPE, mais qu'en même temps, où elles peuvent voter et donner un avis sur les budgets de tout l'EPE, leur répartition, etc., par exemple, la campagne d'emploi, mais qu'en même temps, elles gardent la maîtrise de leur budget et de leur personnel, quoi. Voilà. Donc, les éléments universitaires sont affaiblis dans ce genre de... Généralement, sortent affaiblis de ce genre de configuration et en partie dessaisis de leur capacité de décision et d'action. Alors, en sachant que les EPE, ce sont des établissements publics expérimentaux, l'expérimentation n'est pas censée durer ad vitam aeternam, et que ce qui est prévu, c'est une sortie en tant que grand établissement à partir d'un certain nombre d'années de statut d'EPE, et les grands établissements sont un statut encore différent. C'est le cas, par exemple, de Paris Dauphine et de Sciences Po Paris, pour vous donner un ordre d'idée, où le cadrage est encore plus minimaliste que celui des EPE, quoi. Ça répond en partie à la deuxième question du flyer, publicité sur la conférence, qui était quelles seraient les conséquences sur la démocratie universitaire. Voilà. Donc la deuxième caractéristique, alors en plus je voulais savoir quand j'avais commencé pour le temps, mais j'ai même pas regardé. La deuxième caractéristique, c'est le mode de financement, je vous disais, qui était, enfin la deuxième caractéristique sur laquelle je vais développer, c'est le mode de financement et leur transformation de ces modes de financement. Je vous disais un sous-financement chronique dès le départ, enfin depuis que les universités existent, hein, apparemment y compris depuis Napoléon, hein, si j'en crois les historiens spécialistes de la question, mais qui jusque en 2009, je vais y revenir rapidement, était basé ce sous-financement, comme je vous disais, hein, sur, enfin le financement en tout cas sur des critères de répartition uniforme pour toutes les universités, tels que le nombre d'étudiants, donc, autrement dit, le nombre de personnel, autrement dit, des critères basés sur les... en partie basés, au moins en termes de logique, sur les besoins, quoi. Voilà. Ce sous-financement chronique, il a été aggravé, en général, les gens qui connaissent un peu le savent, mais par la LRU, hein, et en particulier la dévolution de la masse salariale aux universités et la non-compensation intégrale du GVT, hein, glissement vieillesse technicité. J'espère que je ne parle pas trop chinois pour certains, mais c'est-à-dire qu'en général, les fonctionnaires, le salaire des fonctionnaires augmente mécaniquement, pas que, mais avec l'ancienneté, et que donc, certes, ceux qui partent à la retraite sont remplacés par des gens plus jeunes et moins payés, mais que globalement, un GVT est positif, hein, et que donc la masse salariale augmente plus ou moins mécaniquement. Ça, c'est depuis la fin des années 2000. Et puis, la non-compensation intégrale systématique de différentes décisions nationales depuis, dont par exemple celle de l'augmentation du point d'indice, hein, depuis l'année dernière, quoi. Sous-financement, je disais, aggravé par la LRU, aggravé par la stagnation, voire la baisse du budget pour les universités depuis 15 ans, si on prend en compte l'inflation, hein, avec donc stagnation, voire en prenant en compte l'inflation, baisse, avec une augmentation forte du nombre d'étudiants, depuis toujours 15-20 ans, ce qui a pour résultat une diminution des dépenses par étudiant d'au moins 10% sur ces 10 dernières années, je dis bien d'au moins, hein, puisque les calculs peuvent différer. Donc ça, c'est une chose, mais... on est passé à partir de 2009 en particulier, du début des années 2000, mais ça s'est renforcé à la fin des années 2000, nous sommes passés à une mise en compétition sur les financements, à la fois par l'instauration d'un financement à la performance, ça c'était la révision générale des politiques publiques mise en place sous Nicolas Sarkozy en 2009, hein, qui, au lieu de prendre les critères du nombre d'étudiants, prenait par exemple les critères pour un modèle qui s'appelait SYMPA, je me souviens plus, de répartition des moyens à la performance et à l'activité. On est passé non plus du nombre d'étudiants, mais du nombre d'étudiants passant les examens. Mm-hmm. Et puis non plus du nombre de personnels, mais sur le nombre d'enseignants-chercheurs publiant, coefficienté par la note A+, A+B+, etc. de son laboratoire. Voilà. Donc ça, c'était la première chose qui a été mise en sommeil totalement en 2013 et qui n'existe plus, ce modèle de répartition des moyens qui avait au moins l'avantage de permettre une certaine objectivité, quoi, hein, et une certaine connaissance des critères, même si on pouvait ne pas être en accord avec les critères. Depuis 2013 et la fin de cotation A, B, C, etc. des labos par la loi Fioraso, hein, le système est tombé du fait qu'on lui en enlevait un bout d'élément et rien n'a été mis en place depuis, ce qui signifie que, ça me permettrait de répondre à une autre des questions, hein, qu'il n'y a plus aucune connaissance sur les critères d'allocation des moyens du ministère aux universités aujourd'hui, quoi. Le financement à l'excellence, ou autrement dit aux appels à projets et en particulier les programmes Investissement Avenir ou PIA, eh bien, ce que je peux vous en dire, c'est que d'abord, ils se sont développés à partir des années 2000, hein, mais progressivement imposés à partir du plan Campus 2007-2008, puis des différents PIA, donc le PIA 1 et leur politique d'excellence, IDEX, l'ABEX, dont tu parlais tout à l'heure. Le PIA 1 a été lancé en 2010 sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Le PIA 2, puis en 2015, et le PIA 3 en 2017, les deux sous la présidence de François Hollande. Et le PIA 4, qui inclut aujourd'hui dans France 2030, en 2021 sous la présidence d'Emmanuel Macron. en sachant que depuis le PIA 3, 2017 donc, ce mode de financement qui était réservé à la recherche auparavant peut aussi abonder les ressources en matière de formation, ce qui était aussi une grosse différence. Dans tous les cas, pour ceux qui ne sont pas du tout connaisseurs de ce mode de financement, ben, il s'agit d'un dispositif concurrentiel fonctionnant sur la base d'appels à projets, de réponses des établissements, d'expertise des candidatures par un jury, le jury PIA, on y reviendra, qui est assez influent sur un certain nombre de choses, et d'octroi ou de refus du financement. Voilà, il est amené à se développer, ce mode de financement par appel à projet, avec le PIA 4, mais également avec la loi de programmation de la recherche, la LPR, donc adoptée en décembre 2020. Ce qu'il faut voir, et c'est particulièrement important aussi, c'est que ces financements par appel à projet, en fait, ils consomment directement de nombreuses ressources. Ils consomment du temps de travail, hein, des équipes de direction universitaire, puisque la réponse au PIA, c'est l'université en elle-même qui les fait, en général, mais aussi du temps de travail des enseignants, chercheurs et chercheurs, pour monter le projet, temps de travail largement perdu quand le projet n'est pas retenu. Quand il est retenu, le projet consomme du temps de travail pour en effectuer le suivi, hein, parce que l'activité de reporting est particulièrement conséquente. Il consomme évidemment du temps de travail des métiers support et soutien au sein des métiers existants, d'une part, mais aussi il génère la création de postes, hein, de catégorie A en général, contractuelle, pour accompagner dans le montage et le suivi de projet les équipes. Et par exemple, au sein de mon université, hein, d'Aix-Marseille Université, on a eu des créations de postes de chargé ou ingénieur de projet PIA. Et tout un tas d'autres, ingénieurs de projets européens, etc., etc. Voilà, il consomme finalement, ce mode de financement, des ressources financières, puisque toutes les universités lauréates des projets PIA ont fait appel à des cabinets privés de consultants pour les aider à en monter les dossiers particulièrement complexes. Un des principes des fonds PIA obtenus par les universités est qu'ils doivent être alloués en interne de manière compétitive, soit par appel à projet interne, démultipliant ainsi ce processus de consommation des ressources. Alors pendant longtemps, moi j'analysais ça comme effectivement un processus de consommation des ressources et de prédation des ressources publiques par des acteurs privés quand il s'agissait d'appel à des cabinets de consultants. Mais j'ai été pendant un an et demi en fait chargée de mission moyen de la fac de lettres d'Aix-Marseille Université, qui n'est plus qu'une UFR, on va dire, et qui regroupe 15 000 étudiants, 500 enseignants-chercheurs titulaires à peu près, et 150-200 IATS titulaire et contractuel. Et je me suis rendu compte, en fait, dans la pratique, hein, que non seulement c'était consommateur de ressources, on aurait pu penser, mais puisqu'on a de nouvelles ressources, à la limite, bon, mais c'est que, il faut aller plus loin de ça dans l'analyse, c'est que ça vient, en fait, vampiriser des ressources pérennes dédiées aux missions de base de l'université et à l'ensemble des étudiants, étudiantes, enseignants et personnels, quoi, alors que elles ne sont, les bénéfices financiers ne vont que sur un petit nombre d'étudiants, d'enseignants, enseignants, chercheurs, voire personnels administratifs qui sont dans les projets, quoi. Je vous donne deux exemples. C'est que l'appel à projet Nouveau Cursus à l'université, qui faisait partie du PIA 3, un de ses objectifs consistait à organiser au sein de mentions de licence des parcours d'excellence, je cite, pour des étudiants particulièrement performants et motivés. Ça, je cite, ce n'est pas du vocabulaire de sociologie, hein, on est bien d'accord. Nombreux établissements lauréats ont créé avec ces financements des doubles licences à très petits effectifs. Les financements ne permettaient le recrutement ni d'enseignantes, ni de personnel administratif, ni contractuel, hein, ni statutaire. Ils accordaient seulement un volant d'heures d'enseignement au tarif d'heures complémentaires, hein, c'est-à-dire 40 et quelques euros l'heure. Les enseignants et enseignantes-chercheurs qui enseignent aujourd'hui dans toutes ces doubles licences, hein, sont, à part des professionnels, on va dire, des enseignants statutaires qui, pour la plupart, réalisent ces enseignements non pas sur heure comp, sur heure complémentaire, mais sur heure service, soit en soustraction des heures qu'ils réalisaient auparavant dans les enseignements en licence classique, je dirais. Les nouveaux moyens sont ainsi allés à de nouveaux diplômes très sélectifs, qui non seulement à très petits effectifs, comme je disais, qui non seulement se développent à côté des licences générales et attirent les meilleurs étudiants, mais également aspirent, en fait, quand je parlais de vampirisation, aspirent la force statutaire des diplômes classiques et la remplace, cette forme statutaire dans les diplômes classiques, par des jeunes chargés de cours payés aux 40 euros de l'heure, devant des étudiants plus nombreux et plus nombreuses et plus hétérogènes, hein, que dans les doubles licences créées. Un deuxième exemple. Plus globalement, la gestion des projets PIA à Aix-Marseille Université, les fonds sont gérés par une fondation, la fondation Amidex, et la gestion et les activités générées par ces projets ont impliqué une augmentation importante du travail financier et du travail RH par le recrutement de 2 à 300 personnels contractuels sur des contrats plus ou moins courts. Ce travail RH et financier repose en fait sur les services centraux de l'université, déjà en tension, et cette surcharge de travail a conduit de nombreux personnels au bord du burn-out, hein, d'autant que les pressions pour que ces dossiers soient traités prioritairement ont été fortes et que la nouvelle hiérarchisation des priorités a été largement intériorisée par l'ensemble des personnels. Ce phénomène, ce processus de vampirisation, en fait, il est reconnu, même si le terme n'est pas utilisé, par la Cour des comptes, hein, qui, dans son rapport d'octobre 2021 sur les PIA, indiquait que les frais de gestion, hein, c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage du montant du projet qui revient à l'établissement pour supporter les coûts de gestion du projet, on va dire. Donc, je cite la Cour des comptes, les PIA, les frais de gestion ne couvrent qu'une faible partie des coûts. Les universités ont été obligées d'y pallier en utilisant leurs ressources propres, voire leurs emplois permanents. Fin de citation. Voilà. Alors j'ajouterai que cette vampirisation, elle s'accompagne évidemment d'un processus de segmentation et de hiérarchisation entre universités, celles qui ont les PIA et celles qui ne les ont pas, et au sein des universités en interne, ceux qui ont les fonds sur des projets PIA en interne, je vous disais, et ceux qui, ou celles qui ne les ont pas. On le voit en filigrane dans les exemples que je donnais, et des travaux en sciences humaines et sociales, hein, ont clairement montré que ces appels à projets renforcent les inégalités de genre au sein de la profession académique, ainsi que les hiérarchies disciplinaires, puisque ce sont en interne davantage les hommes qui sont lauréats de ces projets et davantage les sciences de la nature que les SHS. Et que d'autre part, le financement par appel à projet avec sa logique court-termiste et la vampirisation des ressources pérennes dont je vous parlais amplifient également le développement d'emplois contractuels et précaires dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et donc cette analyse de l'évolution des modes de financement répond à partie aux questions, hein, qui nous étaient posées. En tout cas, la 3, la 5, la 6, voire la 1, je disais. Donc la 3, c'était une telle fusion entraînerait-elle une hausse de la subvention pour charges de service public par étudiant, c'est-à-dire une hausse des crédits ministériels récurrents. Je vous parlais du sous-financement chronique et de la baisse, de toute façon, ces dernières années, du budget pour l'enseignement supérieur pérenne, avec le nombre d'étudiants qui signifiait une diminution de la dépense par étudiant déjà conséquente. On ne part pas vers un changement, hein, en la matière. Les 5 et 6, c'était plutôt, est-ce que cette fusion permettrait d'augmenter le taux d'encadrement par des titulaires, que ce soit en termes d'enseignants-chercheurs ou de personnel administratif ? Eh ben, je voyais que j'ai apporté des éléments. Et la 6e, c'était, l'excellence promise par ce type d'établissement serait-elle réservée à une petite minorité ou aurait-elle vocation à bénéficier à toutes et tous de façon égalitaire ? En sachant que ce dont je vous parlais, c'était les effets induits par ce mode de financement, qu'il est possible de lutter contre en interne, hein, mais par une volonté politique forte de la présidence, en l'occurrence, hein, que c'est difficile et que ça paraît encore plus improbable dans la formule EPE, on va dire, hein, où la présidence, enfin, où les conseils, la présidence et puis son, ses conseils centraux, on va dire, hein, son organe de direction, où l'organe de direction pourrait être constitué de beaucoup moins d'élus et de beaucoup plus de personnalités extérieures. Voilà. Donc, je ne sais pas combien de temps il pourrait me rester. Est-ce que j'ai...
Encore 5-10 minutes.
5-10. Donc... Je voulais vous dire quelques mots des droits d'inscription, hein, et puis passer à la conclusion. En termes de droits d'inscription, je vous disais uniforme et faible, hein, il faut dire ce qui est, surtout quand on a travaillé sur l'Angleterre, hein, par exemple, c'est plus des droits de, administratifs, on va dire, hein, 170 € là en licence, 243 en master, si je me souviens bien, à 3 € près. Ouais. C'est alors quand je disais que le contexte, enfin dans une situation de sous-financement chronique, on va dire, hein, et de possibilité d'augmenter les droits d'inscription, alors les gouvernements successifs depuis au moins deux vaquets, je pense, ont bien compris que il était compliqué, hein, d'augmenter, enfin il était compliqué, était dangereux politiquement, on va dire, d'augmenter les droits d'inscription nationaux. Et que du coup, différentes possibilités existaient pour augmenter tout un tas de droits d'inscription, hein, mais non de manière uniforme et nationale, quoi, hein. Donc on pouvait rester à ces droits d'inscription nationaux, mais tout en permettant de plus en plus, parce que c'est, en fait c'est possible depuis fort longtemps, par les diplômes d'université, hein, ça l'est encore plus par les diplômes d'établissement, c'est-à-dire que par exemple, Nice a été une des premières universités transformé en EPE, puisque sa présidente, enfin la ministre Frédérique Vidal, hein, était présidente de l'université de Nice avant de devenir ministre. Et donc l'université de Nice, par exemple, a créé un certain nombre de masters qui ont repris les masters nationaux précédents, mais enseignés en anglais. Certains ont été des créations pures, hein, mais d'autres ont repris les masters existants, mais enseignés en anglais et passant à des droits d'inscription de 4 000 à 5 000 € annuel, en sachant que ces diplômes-là n'avaient pas le grade de master, on va dire, hein, et ça s'appelait pas des masters ER, mais des fois des masters AIRE, vous avez dû voir passer tout ça, ou des MSC, hein, Master of Science. Et par contre, il était possible, ça, c'est quelque chose qui existait déjà, mais qu'on faisait peu. Ça existait pour. Il est possible qu'une commission, en fait, à l'issue de votre master, enfin de votre diplôme d'établissement, eh bien, vous mette un tampon, hein, validant ce diplôme d'établissement comme un diplôme national de master. Voilà. Donc, vous voyez que c'est une façon de détourner. Enfin, c'est faisable sans augmenter les droits nationaux. Et c'est faisable de manière très individualisée, non seulement par université, mais en plus par diplôme, ce qui permet une certaine invisibilisation du processus. C'est encore plus possible, donc, je vous disais que les EPE seraient ont vocation à être transformé en grand établissement. Grand établissement, il n'y a même plus ce cadrage-là. Hein. Grand établissement, je vous disais, c'est par exemple Paris Dauphine et Sciences Po Paris qui n'ont aucune réglementation en matière de cadrage de leurs droits d'inscription. Voilà. Et en conclusion, un peu, pas très courte, mais pas très longue non plus. Je dirais que ce qui se met en place depuis bientôt 15 ans avec la RLRU, les fusions, le financement par appel à projet, en particulier les PIA et les EPE, c'est indubitablement un autre modèle que celui construit après 1968 et après la loi Savary. C'est de l'ordre de la sociologie et des sciences humaines et sociales que de les analyser, ces différents, ces deux modèles et leur transformation. Et c'est à partir de là qu'entre la politique, je dirais, hein, quel modèle voulons-nous, chacun et chacune d'entre nous et chacune de nos organisations professionnelles et syndicales. certains ou certaines trouvent le nouveau modèle attractif, d'autres le trouvent inacceptable, hein, mais je dirais que c'est là où s'arrête la sociologie et c'est là où commence la politique, hein, même si la sociologie est en mesure, hein, et les sciences humaines et sociales sont en mesure de dire que ce nouveau modèle ne peut qu'aboutir à développer les inégalités entre universités et au sein des universités, comme la sociologie et les sciences humaines et sociales pouvaient être en mesure de montrer que Parcoursup et la réforme du lycée, par les modalités qu'elles ont prises, ces réformes, ne pouvaient qu'augmenter l'importance et la force du capital culturel dans les parcours scolaires et universitaires. Et donc, pour terminer, faire le lien avec vos problématiques et ce dont va vous parler Marella après moi, c'est finalement pourquoi une fusion et un EPE pour répondre aux incitations de l'État, on va dire, et des PIA. En sachant quand même, je vous disais que ce n'est pas parce que l'on fusionne, que l'on crée un EPE, qu'on aura un PIA. Voilà, je veux dire, il y a quand même une incertitude forte. En sachant que, on pourrait se dire, hein, à minima, que si vraiment, enfin, que si on décide, hein, d'aller vers une fusion et un EPE, eh ben, il y a quelques points de vigilance à avoir, et en particulier un qui est la composition des conseils et l'organisation interne. L'autre étant le niveau d'intégration des écoles avec ou sans personnalité morale dont je vous parlais tout à l'heure, hein, mais que le jury PIA a des critères justement pour accorder ses financements, et que dans ces critères, eh bien, c'est en particulier, et d'ailleurs, et deux, c'est une dépêche AEF, hein, AEF ça veut dire quoi déjà, agence d'enseignement
et formation,
ouais, c'est, qui est quelque chose de très sérieux et absolument pas syndical, hein, très sérieux, ce qui n'empêche pas les syndicats d'être très sérieux, mais très officiel, on va dire, hein, très analytique, factuel, quoique ça, la question de la factualité est toujours questionnable, mais bon. Le dernier lancement des projets, hein, eh bien, par exemple, l'université Gustave Eiffel, son PIA a été refusé, et celui de Cergy également. Si je me souviens, attendez que je sois à la bonne page quand même.
Ah oui, Cergy.
Pour deux raisons. La première, c'est que il n'y avait pas assez de personnalité extérieure dans leur conseil. Et l'autre, c'est que leur conseil était trop important. Il devait être plus réduit en nombre et avec moins de personnel élu. Voyez. Donc je veux dire, même si on essaie de tenir les points de vigilance, quoi, dans la construction, ce n'est pas pour ça. Et même si on va au PIA, ce n'est pas pour ça. Enfin, si on va à l'EPE et à la fusion et EPE, ce n'est pas pour ça qu'on aura un PIA, quoi. Et puis, la dernière chose que je dirais, c'est que fusion et EPE, ce n'est pas la même chose. Enfin, on pourrait fusionner sans EPE, c'est ce qu'a fait Aix-Marseille Université. On pourrait faire un EPE sans fusion, c'est ce que pourraient faire d'autres, on va dire. Non, quand un PIA est refusé... Ben, je répondrai après. Pourquoi il y a un écho, là, d'un coup ? C'est bon. Je répondrai aux questions dans le chat plus tard, hein, on est d'accord. C'est que si un changement de politique au niveau national, vers lequel on ne va pas pour l'instant, mais enfin je veux dire, si d'autres élections nationales nous amènent vers un changement de politique au niveau national, il est possible, hein, que le statut de PE disparaisse par exemple, hein, et qu'on propose un autre statut qui soit ou celui d'université ou carrément d'une université. Un statut d'université amélioré du point de vue de la démocratie, etc. Et donc, aller vers un EPE, ce n'est pas... Définitif, quoi. Voilà, je veux dire, on peut imaginer avec un changement de politique nationale que ce soit réversible. Voilà ce que je voulais dire. En revanche, aller vers une fusion, Marella va vous dire à quel point, en termes, surtout pour les services administratifs, donc pour le personnel administratif, et avec tous les effets après que cela a sur les étudiants et sur les enseignants, enseignants-chercheurs et tout ça, c'est une grande réorganisation des services. Donc c'est quand même, du point de vue de la sociologie aussi, un grand traumatisme, au sens de traumatisme, je veux dire... mais pas au sens objectif du traumatisme, quoi, pas forcément négatif non plus, mais... et que donc, défusionner semble quand même franchement compliqué après avoir fait subir au personnel et au service le traumatisme, un traumatisme de réorganisation, quelque peu d'années après, revenir sur une fusion semble quand même peu raisonnable, y compris d'un point de vue syndical, quoi. Hein, je veux dire, justement, en termes de multiplication des réorganisations, quoi, hein, sur des temps courts. Voilà, je m'arrête et Marella, puisque en plus ça te donne envie de prendre la parole, donc ça tombe très bien.
En plus, non, mais la différence, c'est que le PE, déjà dans son statut, c'est quelque chose qui est censé accompagner une transition, pas forcément être finale. Avec une transformation au bout de 5 ans.
Tu m'as oublié de changer de chaise.
Ouais.
Alors, Donc,
les questions à la fin,
tout à la fin.
Donc, moi en deux mots, je me représente. Donc, en fait, j'ai commencé à travailler sur les fusions en 2009 parce que Aix-Marseille Université, le premier. Projet de fusion, c'était 2009, qui a avorté. Donc voilà. Donc je sais que Lyon, j'ai suivi aussi dans les débats les multiples projets qu'il y a eu. Et à un moment donné, il y a eu une tentative de fusionner K2 finalement. Et puis finalement, ça a été reporté en 2012. Donc j'ai connu tous les travaux et les groupes de travail en tant que directeur de service. Moi, j'étais directrice de tout ce qui était formation continue, apprentissage, et après les relations extérieures, relations entreprises. Et j'ai été élue pendant 11 ans à la conférence des directeurs au national. Donc on a beaucoup travaillé aussi en inter-université. Donc j'ai eu la phase direction de service, accompagnement de la fusion après sur les 600 mobilités. Des personnels, et après au bout de 10 ans de fusion, donc j'ai fait partie de la gouvernance où c'était une autre phase où il fallait un peu la fusion ayant été digérée, il fallait qu'on reprenne un peu des axes de gouvernance, donc notamment sur une vraie prise en compte de la RH, mais pas juste la RH, gestion de la masse salariale. Donc j'étais en charge auprès de la gouvernance sur tout ce qui était gestion prévisionnelle des emplois, compétences, reprendre tous les schémas directeurs RH en fait, et notamment tout l'aspect relation avec